Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Francis Poé-Zévara, coordinateur national adjoint de Génération, conseiller municipal à Puteaux. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, l'Assemblée a adopté la constitutionnalisation de l'IVG proposée par les Insoumis. Pourquoi est-ce important d'inscrire la loi autorisant l'avortement dans notre texte fondamental ? Est-ce que ce droit est menacé aujourd'hui ?
Alors, je pense que c'est vraiment très important. Et pourquoi c'est important ? Parce que, simplement, c'est un droit fondamental pour les femmes à disposer de leur corps. Donc, dans la loi fondamentale, ça semble la moindre des choses. Au-delà, c'est un signal fort qui est envoyé, parce que ce que vous dites, hein, aujourd'hui, ce droit est menacé un peu partout autour du monde. On assiste à un regain d'obscurantisme, d'ailleurs, qui n'épargne pas la France. Hein, donc, je pense que voilà, c'était un grand signal que, grâce à la proposition de la NUPES, la France tient son rang, en quelque sorte, je dirais presque phare dans la nuit. Mais en tout cas, elle tient son rang et elle réaffirme qu'elle est le pays des droits de l'homme et de la femme, en l'occurrence. Ce que je note aussi, et ce qui me réjouit, c'est que il y a une majorité assez large qui a été trouvée autour de ce texte, et que seuls les plus réactionnaires s'y sont opposés, que ce soit au Rassemblement National ou certains chez les Républicains. Donc voir qu'il y a une grande majorité qu'on peut trouver autour de grandes avancées, ça me semble une très bonne chose.
Alors, vendredi dernier, c'était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Malgré le Grenelle initié par Marlène Schiappa, le nombre de femmes assassinées par leur conjoint ou leur ex-conjoint est encore très présent en France. Que propose votre parti Génération pour lutter contre les féminicides ?
Je pense qu'il y a deux types de réponses. Il y a les réponses à court terme et les réponses à moyen terme. Déjà, à court terme, c'est tout simplement mettre fin à l'impunité des agresseurs. Quand on voit que nous toutes indiquent qu'il n'y a que 0,6% des violeurs qui sont condamnés, c'est insupportable dans un état de droit. La base, ça devrait être qu'une femme qui veut porter plainte pour des violences dans un commissariat, tout simplement qu'elle puisse le faire, qu'elle soit pas découragée à le faire. Ça semble l'étape zéro et malheureusement c'est pas du tout le cas en France et c'est pour ça d'ailleurs qu'on insiste autant sur la phrase on vous croit. Voilà, la phrase on vous croit, c'est très important. C'est la première chose qu'on devrait répondre systématiquement à une victime. On vous croit que la parole des femmes a un poids. Après il y a énormément de propositions évidemment, mais je pense que cette question culturelle est fondamentale. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose à voir sur le moyen et le long terme. Comment faire évoluer les mentalités ? Ça, évidemment, ça prend énormément de temps et c'est très compliqué. Bon, je me permettrai d'être un peu optimiste néanmoins. J'ai l'impression que la prise de conscience est en train de se faire. C'est vraiment très long, les mentalités évoluent très lentement, génération après génération. Mais j'ai l'impression que les choses s'accélèrent ces derniers temps. Et voilà, et je trouve que c'est plutôt porteur d'espoir, même si aujourd'hui, il faut le rappeler, on en est à 122 féminicides pour l'année 2022, donc on va dépasser ce qui avait été fait, le triste score de 2021. Donc voilà, il y a énormément de choses à faire encore.
Francis Poé-Zévara, on va changer de sujet sur la question du pouvoir d'achat. Est-ce que vous êtes préoccupé par ce qu'il va se passer dès le mois de janvier, la hausse des tarifs de l'énergie de 15%? Je pense à l'impact sur les personnes en grande difficulté. Elles vont devoir vivre dans le froid ou bien arbitrer entre le chauffage ou le paiement du loyer, par exemple.
Oui, alors préoccupé par l'augmentation de janvier, c'est sûr, mais en fait, la situation, elle est déjà catastrophique aujourd'hui. Aujourd'hui, déjà, on a des gens qui doivent arbitrer entre se chauffer ou manger. C'est des personnes, alors en grande difficulté, oui, mais en fait, la définition de la difficulté s'élargit de jour en jour, d'année en année. On a aujourd'hui énormément de personnes qui sont mises en difficulté devant l'augmentation des prix de l'énergie. Le fait qu'il y ait encore une augmentation de 15% qui se profile est évidemment catastrophique. On a des copropriétés entières qui sont en faillite. Moi, sur ma ville, j'ai été alpagué par un certain nombre de personnes parce que justement, leur copropriété elle-même ne pouvait plus assumer les coûts d'énergie, de chauffage, d'eau chaude. On a des communes aussi, on l'oublie souvent, mais on a des communes aussi qui ont pu être en mesure de payer leurs factures énergétiques. Et quand une commune est obligée de mettre 100 000 euros de plus dans les chauffages de ses écoles, par exemple, c'est 100 000 euros qu'elle va également devoir enlever ailleurs sur un service public de proximité important. Donc on est vraiment sur une situation catastrophique. Il faudrait bien sûr que le gouvernement agisse, mais là, cette fois-ci, je suis assez pessimiste quand on voit ce qui s'est passé au niveau européen, où globalement les gouvernements étaient d'accord pour taxer les super-profits des grandes entreprises énergétiques qui tirent un profit énorme de cette crise. La France s'y est opposée et préfère demander l'aumône ou en tout cas presque la charité à ces grandes entreprises en disant « Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez, sur un acte de bonne volonté, le faire ?» Je pense qu'à un moment, il faut prendre ses responsabilités et taxer les super-profits pour pouvoir justement financer toutes les mesures qui pourraient améliorer concrètement la vie des Français.
Alors, il y a des signes inquiétants en ce qui concerne l'augmentation de la pauvreté. Les Restos du Cœur tirent la sonnette d'alarme. Cette année, le nombre de personnes qui les sollicitent a augmenté. Le nombre de très jeunes enfants est en hausse également. Est-ce que les aides sociales doivent être encore réévaluées? Est-ce qu'il faudrait parler à nouveau d'un revenu minimum?
Oui, comme tout à l'heure, il y a deux types de réponses. Il y a les réponses à court terme et les réponses à moyen et long terme. À court terme, c'est sûr qu'il faut prendre des mesures dès maintenant pour redonner, c'est même pas du pouvoir d'achat, là, c'est du pouvoir de vivre aux Françaises et aux Français. L'inflation est très importante. Je rappelle que l'inflation dans l'alimentaire, c'est le double du reste des autres secteurs. Les prix explosent avec une augmentation de 12%. On est à 12% sur un an. Alors, comme on partait d'une situation déjà catastrophique, évidemment, ça devient très compliqué. Vous vous souvenez, l'année passée, les files d'étudiants devant justement les Restos du Cœur. Quand on voit la jeunesse qui en est réduite à ça, je trouve que pour un pays, c'est terrible. Donc évidemment, il faut augmenter les aides sociales de manière générale. Et à moyen terme, je pense aussi qu'il faut arriver, enfin, il faut se mettre d'accord sur un constat, c'est-à-dire que toutes les politiques d'éradication de la pauvreté ont raté, ont échoué lamentablement, et qui donc il faut trouver de nouvelles solutions. Et c'est pour ça qu'à Génération, nous, on porte la proposition d'instaurer un revenu universel d'existence dont l'objectif serait vraiment l'éradication, donc éradiquer la pauvreté. Ce serait pas suffisant pour assurer une bonne redistribution des richesses. Néanmoins, ça permettrait d'éradiquer la pauvreté, que les enfants, ils voient que la grande pauvreté, c'est dans les livres d'histoire et pas dans la file d'attente des Restos du Cœur.
Francis Poé-Zévara, un changement important sera appliqué dès le mois de février pour les chômeurs. La durée de leur indemnisation dépendra du marché de l'emploi, une durée qui sera amputée de 25% si la conjoncture est considérée comme bonne. La réforme de l'assurance chômage vous paraît-elle trop dure ?
Trop dure et complètement inadaptée. On retrouve vraiment, c'est la base de l'imaginaire de la droite, c'est-à-dire les chômeurs sont des feignants. Voilà, c'est pour ça qu'il y a cette réforme qui est mise en place, c'est pour ça que en 2019 il y a eu la baisse des indemnisations, c'est que ils ont cette image et ce raisonnement complètement faux, ce raisonnement complètement simpliste. Il y a des postes à pourvoir en France, c'est vrai. Il y a des chômeurs, beaucoup plus. C'est vrai aussi. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que si on les indemnise moins, ils vont finir par prendre les postes. C'est simpliste parce que, en fait, c'est un sujet bien connu et étudié, et il n'y a aucune étude qui va dans ce sens-là. C'est pas parce qu'on a un système de chômage qui est généreux qu'on favorise justement le chômage et qu'on défavorise le retour à l'emploi. Alors les mesures qu'ils proposent sont absurdes, et là leur nouvelle trouvaille, enfin, c'est affligeant. C'est-à-dire que, imaginez par exemple que l'emploi touristique reparte à la hausse dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, etc. Et donc la conjoncture, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, bah, s'améliorerait globalement, nationalement. Bah, ça voudrait dire que à l'autre bout des pays, les chômeurs, par exemple dans les Ardennes, vont être amputés de 25% de leur durée d'indemnisation. Bah, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout le monde doit déménager dans le sud. En fait, si on fait ça, bah après, alors déjà, humainement, c'est pas possible. Mais en plus, ça veut dire qu'une fois qu'on a fait ça, bah, il y aura plus de travail non plus dans le sud, donc la situation va se redégrader, etc. Enfin, c'est absurde. Le concept est absurde et profondément injuste.
Alors, le projet de réforme des retraites voulu par Emmanuel Macron pourrait entraîner des mouvements de grève dans les mois qui viennent. Pourquoi votre parti Génération est-il hostile à cette réforme ?
Alors, il y a plein de raisons qui fait que cette réforme, c'est vraiment une mauvaise idée. Je vais en retenir une qui me semble particulièrement marquante et qui est liée à l'espérance de vie en bonne santé. Quand on est en France, on peut espérer vivre en bonne santé jusqu'à 65 ans en moyenne, donc c'est un peu plus pour les femmes, un petit peu moins pour les hommes. Et ça, c'est un âge qui n'augmente plus, contrairement à l'espérance de vie tout court. L'espérance de vie en bonne santé, elle stagne. Et donc, si on passe l'âge de la retraite à 65 ans, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va essorer les gens au travail jusqu'au bout de leur santé et que quand elle commence à se dégrader, 65 ans, espérance de vie en bonne santé, ben, on les jette. Voilà, on les met à la retraite, mais sachant que de toute façon, voilà, ils arriveront dans des situations potentiellement de dépendance. Ça devient, la retraite devient un rebut de la société. Je trouve que c'est catastrophique. À Génération, nous, on pense qu'il faut permettre aux gens de profiter de belles années de vie, y compris à la retraite, parce qu'on n'est pas là que pour travailler et que comme main d'œuvre. Et c'est pour ça que ce report, d'ailleurs qui n'est pas tout à fait arrêté encore, mais ce report nous semble être une très mauvaise idée.
Alors, la réforme des lycées professionnels prévoit moins d'heures de cours et plus d'heures de stage. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette philosophie, puisque cela permettrait de mieux insérer ces jeunes dans la vie professionnelle ?
Alors, non, on n'est pas du tout d'accord avec cette vision de l'école en général, du lycée pro en particulier. À nouveau, je pense que c'est lié à une vraie divergence. Une divergence sur les visions de l'école à droite et à gauche. Est-ce que l'école doit former uniquement de la main-d'œuvre, j'en parlais à l'instant, ou est-ce qu'elle doit former des individus ? La droite, depuis toujours, souhaite que l'école s'adapte aux besoins des entreprises parce qu'il ne voit les élèves comme des futurs travailleurs qui pourront faire fonctionner les entreprises et le système économique. Nous, ce qu'on porte à gauche, c'est que l'école, au sens large, hein, et donc y compris les lycées, y compris le lycée professionnel, c'est là d'abord pour former des individus et donc diminuer le nombre d'heures d'enseignement général pour justement faire des lycéens complètement adaptés uniquement aux besoins économiques des entreprises. Ça va complètement à l'inverse de cette vision-là. Le lycée pro, en plus, a toujours été la dernière roue du carrosse, hein, d'un point de vue de l'éducation. On a tendance à imaginer que le lycée pro, c'est fait pour apprendre juste un geste technique qu'on va maîtriser à la perfection, et puis après, comme ça, on rentrera plus facilement dans une entreprise. Ben, c'est pas ça l'objectif. C'est pas ça l'objectif du lycée pro. C'est pas ça l'objectif de l'école. L'objectif, c'est vraiment de permettre aux individus de s'émanciper. C'est l'inverse de cette réforme.
Francis Poé-Zévara, vous qui êtes élu à Puteaux, une commune de la banlieue parisienne, êtes-vous préoccupé par la hausse annoncée des tarifs de la SNCF et du Pass Navigo ? Est-ce qu'il faudrait aller vers la gratuité des transports en commun, comme à Niort et Dunkerque, sachant que la région Île-de-France manque de ressources actuellement ?
À titre personnel, je suis convaincu qu'à terme, on ira vers la gratuité des transports en commun. Tout simplement parce que dans un contexte de crise écologique, mais aussi de crise sociale, ben, les transports, ça devient un service public vital. Voilà, c'est vraiment une notion de service public qui doit être gratuit. Quand on sachant que quand on dit service public gratuit, qu'est-ce qu'on veut dire? Il n'y a jamais aucun service qui est gratuit. Hein. Donc c'est pas de la gratuité dans l'absolu, mais la gratuité, ça veut dire la prise en compte par les impôts, et les impôts, ça veut dire que les plus riches payent plus que les pauvres. Alors que quand on paye le pass Navigo, ben on le paye chacun à la même, au même tarif. Des services publics gratuits, ça permet de redistribuer, de faire en sorte que chacun paye en fonction de ses moyens. Quand Valérie Pécresse dit qu'elle va augmenter le prix du Navigo, alors je rappelle qu'elle avait promis de ne pas le faire hein, en 2021, c'était il y a un an. Bon, un an après, elle a déjà oublié sa promesse. En fait, elle va augmenter le prix de transport pour celles et ceux, en particulier, qui n'ont pas les moyens de se déplacer en taxi, qui n'ont pas les moyens d'avoir un appartement à côté de leur travail. Et ben, ceux-là, c'est toujours les mêmes. Et c'est toujours sur les mêmes qu'on tape.
Alors, dernière question, j'aimerais qu'on aborde le sujet de l'immigration. Selon un sondage, les Français réclament plus de fermeté sur l'immigration. Votre parti Génération se veut ouvert sur ce sujet. 70% des Français considèrent que la France compte déjà beaucoup d'étrangers et que l'accueil d'immigrés supplémentaires n'est pas souhaitable. C'est une défaite de la gauche, une défaite culturelle de voir qu'une majorité de Français réclame de la fermeté sur l'immigration.
C'est terrible, mais je ne vais pas vous dire le contraire. Effectivement, la droite de Macron comme l'extrême droite de Le Pen sont en train de remporter cette bataille culturelle. C'est pas nouveau après. Hein. On sait qu'en période de crise, on a un phénomène de repli sur soi de manière générale. On a potentiellement ces idéologies qui progressent. Pour moi, ce sont les bas instincts qui s'expriment à travers cette progression des idées d'extrême droite et au-delà d'ailleurs de l'extrême droite, comme je disais à l'instant. Et pourtant, dès qu'on prend du recul, on voit que l'immigration est non seulement une chance pour n'importe quel pays, et il y a de nombreuses études qui le prouvent. Hein, l'immigration rapporte. Y compris économiquement, puisque c'est un peu le thermomètre absolu du macronisme, mais y compris économiquement, l'immigration apporte énormément pour un pays, et en particulier en France, l'immigration, c'est l'histoire de notre pays. En fait, notre pays s'est construit autour de l'immigration. Donc c'est un combat culturel, effectivement, un combat culturel qui est difficile et pour le moment pas très bien engagé, mais qu'il faut absolument qu'on mène nous à gauche et je suis convaincu que c'est également en gagnant la bataille sociale, en menant le combat social, qu'on fera le plus avancer cette question-là aussi.
Merci Francis Poé-Zévara. Je rappelle que vous êtes coordinateur national adjoint de Génération et conseiller municipal à Puteaux. Bonsoir.
Merci.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.